Une histoire de la performance en 20 minutes. Conférence. Tenter une histoire du corps dans l'art comme une histoire du silence face au discours sur l'art. Décontextualiser la performance de son environnement historique. Simplement montrer comment l'histoire de l'art a, à un moment donné, et pour certains, engendré des gestes et non plus des objets. Et surtout, plus de discours. Artiste muet, montrant, désignant, signalant. Ce n'est plus le moment de parler, c'est le moment d'agir. Donc maintenant, taisons-nous. Restons bouche bée. Plus rien à dire, plus rien à lire, tout à faire. Et si peu à faire. Comme si les 4 minutes 33 de John Cage n'étaient pas le silence comme musique absolue, mais plutôt, maintenant je ne copie plus, je montre. Alors, attitude anti-conceptuelle, opposer le silence au discours. Assez bavardé. Non plus joindre, mais répliquer le geste à la parole. Alors, violence. Fin du dialogue. Body art et performance, la face bête de l'art. Analphabète et acharné. Autiste. Les barons perchés. Souvenir. Ce n'était pas pour aller plus loin, pas pour provoquer, c'était jubilation de l'immédiateté. Immédiateté. Littéralement. Plus de médiation. Peut-être là, justement, se tiendrait la plus grande subversion. Le comble de l'art, c'est ne plus avoir d'objet. Car n'importe quoi, n'importe quel objet plutôt que pas d'objet. La grande subversion, c'est pas de traces. C'est vous arrivez trop tard, même pas mise en scène. Le geste précaire, instantané. C'est plus rien à montrer, déjà fini. La culture de la performance, c'est ce qui ne reste pas, même quand on se souvient de tout. Est-ce bien arrivé? Même pas sûr. Ainsi observer, de façon purement formelle, l'histoire de la performance ou du body art n'est pas alors une histoire de représentation du corps, mais exclusivement une histoire de gestes. À peine esquissé, déjà mort. Tentons alors une histoire de la performance en 10 gestes et 30 figures. Ce serait, par exemple, premier geste inaugural, apparaître. Simplement, être là. Je ne me cache plus derrière mon œuvre, donc c'est moi. Droit comme un « i ». I, je en anglais. Le menton légèrement haut. Petit sourire. Je suis là. Je suis bien. J'affirme une subjectivité positive. Bob Morris, iBox, 1962. Ou bien apparaître encore. Bruce Nauman. Assez parlé, assez glosé. Maintenant, je désigne. D'abord, l'espace. Je n'ai plus que cela à faire, reprendre tout à zéro. Réapprendre les gestes fondamentaux. Voici les limites de mon univers d'artiste. Je tourne en carré dans l'atelier. C'est l'enfermement volontaire. Mais je résiste. Je marche, donc je suis. Apparaître, être, tout simplement. Slow Angle Walk, Beckett Walk, 1968. Mais attention, apparaître, c'est aussi, et immédiatement, devenir une cible potentielle. Alors il faudra bien bouger, sinon on nous tirera dessus. Deuxième geste donc, recevoir. Le 19 novembre 1971, Chris Burden se tient debout dans une galerie de Santa Ana en Californie. Debout devant un fusil, une caméra et un appareil photo. On tire. La balle traverse le bras. Aïe. Radicalité de la performance, le geste suicidaire. Burden alors est immobile, déterminé. L'issue est inévitable. Shoot, 1971. Inéluctable, c'est « je ne combats pas ». Mais le plus effrayant, ce n'est pas cela. Car Burden, c'est l'anti-suspense. On se dit juste, peut-être qu'il ne va pas le faire. Mais si, il est cap. Finalement, c'est exercice de la virilité. Je combats la douleur, je suis fort, volonté de puissance et surhomme. On me tire dessus, mais je reste vivant. Nietzschéen. Chris Burden, c'est la santé. Et le pire, c'est la maladie. Le plus effrayant donc, ce n'est pas Burden, c'est Vito Acconci. Le plus flippant, ce ne sont pas les balles de fusil, ce sont des balles de tennis que l'artiste reçoit les yeux bandés et qu'il essaie d'attraper ou d'éviter. Blindfolded Catching, 1970. Burden, c'était le peloton d'exécution. Acconci, c'est la torture. Torture mentale et physique. Le pire de l'humiliation, c'est le geste inutile. Le vrai danger est invisible. Le véritable ennemi est invisible. Les yeux bandés, Acconci est paradoxalement le plus visionnaire. Les yeux bandés, noir absolu, donc, il y eut une nuit, il y eut un matin, troisième geste, retenir. Autre stratégie, résister. Une histoire de la performance comme une illustration des rapports de soumission aux forces extérieures. Mais cette résistance a des limites, toujours. Celle du corps. Alors ce corps qui retient est tendu, raidi, en combat. Mais ce corps, tendu, raidi, en combat, ne finira jamais par triompher. Et sa résistance sera héroïque ou grotesque. Héroïque photographie d'un corps tendu au-dessus du vide, celui de Denis Oppenheim, faisant le pont humain entre deux murs de briques, déplié, tordu, formant un angle avec son corps. Immédiateté et tentation du vide, aspiré par la terre, mais résistant. Pris juste avant de tomber, de sombrer, à l'instant de la plus grande tension. Figé dans la perte, mais aussi dans le combat. Penché vers l'abîme comme une gargouille. Parallèle stress, 1970. Mais retenir, c'est aussi, et surtout, retenir la parole, emblématique de notre histoire. Silence sur le plateau. Version faible, Catalysis 4, 1970-71. Adrienne, Piper, se baladant dans la rue avec un chiffon dans la bouche. Bâillon. Basique, mais peut-être pas si faible. Je donne à voir la violence du silence imposé. Ou retenir encore, version gore et radical, par Paul McCarthy. Hot dog, 1974. Bourrage de saucisse dans la bouche jusqu'à la nausée. Quelque chose qui ne peut pas rentrer et ne peut plus sortir. Geste volontairement abject. Paul retient les saucisses avec un bandage autour de la tête. Alors, évidemment, muet, de force, odieusement muet. Est-il en train d'avaler ou de vomir? C'est la même chose. La saucisse est iningérable. Lui, ingérable. Iningérable, littéralement, même plus gerbante. Le public stupéfait est pris en otage. Si je vomis devant lui, il le fera aussi et s'étouffera. Alors, suprême ironie de la situation, Mac Carty en profite pour réconcilier détracteurs et spectateurs de la performance trash. Comme s'exaspérait un journaliste de France Dimanche en février 1975 à propos du body art, ils appellent ça de l'art, moi ça me fait vomir. Exact. Sans transition, quatrième geste, fuir. Fuir, courir, s'échapper, glisser, dos à l'histoire. La meilleure défense, muette, toujours. Fuir pour ne pas avoir à s'expliquer, pour ne pas avoir à parler, ne faire que courir. Bip bip et coyote dans le désert. Version bip bip. Optimiste, je me libère, souffle de vie, sortir de la toile pour respirer l'oxygène. Geste fondateur et emblématique de Saburo Murakami dès 1956. Breaking through many paper screens. Soit, je cours à travers des cadres de papier tendu, je déchire tout sur mon passage, rien ne me résiste, je suis bip bip. Je traverse, je passe à travers les montagnes, je m'échappe, respiration. Au bout du tunnel, la vie. Épreuve simplifiée d'athlétisme. 200 mètres dans les haies. Les doigts dans le nez. À l'opposé, fuir version coyote. 14 ans plus tard. Asthmatique et suicidaire, absurde, désespérée et pour tout dire, californienne. Par Barry Lee Va. Velocity Peace, 1970. Je me jette sur les murs jusqu'à l'épuisement. Précisément, je ne fonce pas contre le mur. Je fuis. Mais impossible de s'échapper. Magnifique et fulgurant fiasco. Comme une hirondelle claustro dans une étable de la duté ou une mouche. Je bute contre la vitre. Stop. Mais en fait, tout cela est conscient et sublime, jusqu'aux limites de mon corps. Va-et-vient enrayé, Sisyphe démontrant l'impossibilité du mouvement perpétuel, car l'homme s'épuise, s'abîme, se blesse, trace de sang. Pas d'issue possible. Ou alors, une issue. Par un cinquième geste, viser. Nouvelle posture, mettre en joue. Plus de recours possible. Comme si, dès les années 60, l'art avait passé le cap de la sommation. Épuisement de la voie diplomatique. Maintenant, on tire. Le boom des 60s, donc, c'est Niki de Saint-Phal. Je tire au fusil sur des poches de peinture. Concentré sur sa cible, pointé, tiré. Calamity Jane. La posture est forte, virile, précise. Plus que l'action pseudo-subversive de meurtre pictural, c'est la forme du geste qui est importante. Portrait de l'artiste en tueuse. Retournement de situation, vengeance. La peintre reprend la posture du soldat napoléonien du tableau de Goya. En joue, feu. Mais, à peine quelques années plus tard, déjà, Chris Burden, encore, rejoue la scène version désespérée, imprécise, dérisoire. Je tire en l'air sur un Boeing 747. Certes, ça n'est pas dangereux. Ce serait plutôt romantique. Mais potentiellement, c'est tout un avion qui est visé. Alors, on n'y croit pas vraiment, et pourtant, pourquoi pas? La subversion comme désobéissance aux interdictions parentales. On ne vise pas, même pour s'amuser. Attentat ? On dirait plutôt interdiction d'envol, obligation d'atterrir. Burden ramène tout à la terre, brise les ailes des aéroplanes. Littéralement, je te descends. Allez hop, tout le monde à terre, à plat ventre, les mains sur la tête. Puisqu'on parle de descente, sixième geste, chuter. The geste inaugural. Yves Klein, 1960, le saut dans le vide. Yves se jette en l'air du mur extérieur d'une maison bourgeoise de la banlieue parisienne. Mais je ne tombe pas, je décolle. Trucage, certes, mais résultat, je vole. Érection Icare, la tête dans les nuages, aspirée vers l'éther, dans le ciel, négation du corps lourd, c'est le saut de l'ange annonciateur, voire plutôt l'ascension, route vers l'immatérialité. Bref. Variante pathétique et grotesque par Bas Yann Ader, le roi de la chute. Fall 2, 1970. Je fais du vélo au bord d'un canal d'Amsterdam et je me jette à l'eau. Plouf. C'est à peine volontaire, ni démonstratif, ni réactif. C'est plutôt l'erreur de casting. La faute à personne, à peine à lui. S'il est tombé par terre, c'est la faute à Ader. Mais le nez dans le ruisseau, c'est la faute au vélo. Même pas mal, juste inadapté au monde. Suicide social. Émouvant comme une bouteille à la mer. D'ailleurs, prémonition. Ader récidivera de manière tragique quelques années plus tard en disparaissant en mer. Il laissera sa vie, peut-être. Mais là, cette chute de vélo lamentable, c'est encore de la comédie. Discrètement burlesque, silencieusement triste. Chute ? Chut. Mais rassurons-nous, tout n'est pas si calme. Nouveau geste. Crier, gueuler, hurler. Nouveau geste muet. Paradoxal ? Pas vraiment. Le cri n'est pas le discours, le cri c'est l'expression, le bruit, pas le langage. Après des siècles de discours visuels, puis textuels dans l'art, le cri est l'affirmation de l'arrêt du discours. Déjà passé à autre chose. Ou retourner à autre chose. Le simple cri, sans rien, seul, primal, retour à l'essence de l'art. Je crie, après, c'est le langage, la fin de l'enfance. Donc, au milieu des murmures conceptuels, plusieurs hurlements vont se répondre en écho. Jochen, Marina, Bill. Un soprano Johann Gert criait jusqu'à l'épuisement, 1972. Dans un terrain vague, je crie « Hallo » jusqu'à ce que ma voix déraille, prière, chamanisme, hurlement à la lune. 2. Version tête en bas, Marina Abramovic, 1975, Freeing the Voice. Crier, c'est résister, une quasi-trance. Expérimenter les limites du corps, résultat, un bel canto quasi-animal comme un rugissement. La cantatrice, fauve. 3. Bill Viola, The Space Between the Teeth, 1976. Cri version bucco-dentaire, organique. Travelling avant sur une bouche ouverte qui hurle. La caméra rentre dans la bouche comme le dresseur met la tête dans la gueule du lion. Fin du cri, cut. Il ne manque plus que les dents se referment pour mordre. 8e geste. Mordre, couper, cisailler. Un autre scénario possible pour l'histoire de la performance, version cannibale. Pas pour manger, remarque, ni pour avaler, mais plutôt laisser des marques. Toujours opposer le silence du geste au discours, mais cette fois en biaisant, redécouvrant une forme basique de l'écriture. Car, étymologiquement, graphein égale gravé. Dès l'origine, l'écriture n'est pas une construction, c'est une pénétration. Alors, comme le cri est le langage primal, la morsure est l'écriture initiale. Alors, après l'expression muette du hurlement, voici l'impression illisible de la morsure. Donc, laisser des marques. Trademarks Vito Acconci, 1970. Morsure méthodique sur le corps, jusqu'à atteindre toutes les parties possibles. Écriture ambitieuse donc, et même incisive. Impression sur rotative interne, haut de casse, graisse, corps 58, bavure possible, bon à tirer, envoi, dos recourbé, carré collé, plus qu'à laisser sécher, livraison 1 point, New York. Impression toujours, version reliure en piqûre cette fois, Gina Pan, action sentimentale 1972. Assise en tailleur, par terre, je me plante des épines de rose dans l'avant-bras tendu. Je suis sculpture. Je suis le tronc d'arbre des kermesses populaires. À chaque clou planté, je fais un vœu. Pas vraiment maso, donc, un jeu solidaire, plutôt accueillant. Le corps comme terrain fertile, territoire de la greffe, fusion organique possible et souhaitable. Morsure plus obstinée. Nam Jun Pek s'entaille le bras avec une lame de rasoir. 1967. Le geste est simple, basique, sans aucun affect. Puérilement expérimental. Appliqué et absurde. Harakiri version bras. Version petit bras. Car dans la famille Adams de la morsure réflexive école lame de rasoir, le plus sérieux reste l'Autrichien Gunther Bruce. Zeyresprobe, épreuve de lacération 1970. C'est la fin de l'actionnisme viennois, la dernière parade pathétique. Auto-bizutage tragique à Vienne. Un mort, ou presque. Bruce, à genoux, en porte-jartelle déchirée et le corps mutilé, s'entaille tranquillement le crâne au rasoir et boit sa propre urine au verre. C'est la fin. C'est l'homme tout seul, qui finira par s'écarteler lui-même avec des cordelettes fixées aux chevilles. Nous ne pouvons plus rien pour lui. Vladimir Jankélévitch, la mort est l'événement immédiat. Rideau. Je récapitule. Apparaître, recevoir, retenir, fuir, viser, chuter, crier, mordre. Mais encore un nouveau geste, se vider. Se vider, distribution gratuite. Deux formules au choix. Généreuse ou pathétique, la perte ou le don nourricier ou le pur oubli de soi, parfois difficile de bien distinguer. Mon corps, source de vie ou d'emmerde, je te donne ou je me lâche. Dans tous les cas, tournée générale. Donc se vider tendance joyeuse. Bruce, No Man, Self-Portrait as a Fountain, 1966-67. L'artiste crachant de l'eau comme une fontaine. Généreux, donateur, nourricier, source de vie. Silence toujours. Impossible de parler la bouche pleine. Geste simple, à la fois ironique et volontaire. Le maximum d'effet avec le minimum d'effet. Quand artiste content, toujours faire ainsi? Me rappelle plutôt la formule de Kurt Schwitters. Tout ce qu'un artiste crache, c'est de l'art. Puis se vider tendance scato, automule, pisse action, 1968. Se vider dans la bouche d'un autre, le don version sadomaso, golden shower à Munich, bienvenue au théâtre de la crudité, on ne se retient plus, laisser pisser, débordement, watersport. À partir de là, de fait, le robinet est ouvert. Tout peut s'écouler gaiement. On pourrait écrire une histoire de la performance comme une synthèse de la mécanique des fluides. Quelques exemples en vrac. Version flâneuse. Francis, Alice, déversant de la peinture d'un pot percé en marchant dans les rues de Sao Paulo, 1995. Fine ligne bleue sur trottoir gris. Traçabilité maximale. Encore ? Hanna Wilke, Isfarst Epistole, 1978. Urinant, nu, debout, dans la cuvette. Mais pas si vulnérable, car un flingue à la main. Moins provocation naturaliste, donc, qu'affirmation visuelle d'une égalité des sexes dans la violence. Ou bien encore, Caroli Schneemann, Interior Scroll, 1975. Je vide mon corps par le vagin, en déroulant un parchemin à lire. On pourrait dire fusion biblico-Gustave Courbetienne. À l'origine du monde était le verbe. Version finale. Mike Kelly. Manipulating mass-produced idealized objects, 1990. Mission, défécation sur peluche. Subversion maximale. On s'oublie littéralement. Retour du refoulé, rédimère d'assister. Régressif à souhait, genre teddy bear maculé. Toy Story, option jeu de massacre. Bonne nuit les petits. Vous voulez que je vous raconte la blague de l'ours et du lapin ? Non merci, ça ira. Dixième et dernier geste de cette histoire du corps dans l'art. L'envers du premier geste. L'envers de l'apparaître. Le non-être. Utiliser le corps pour signifier l'absence. Bref, disparaître. Alors, Disappearing, 22-24 décembre 1971. Chris Burden disparaît pendant 3 jours, sans laisser de traces. Impossible à localiser. Radical. Le scandale du regard absent. Plus de regardeur, donc plus de tableau. Ce n'est même plus l'absence de trace, ni même la trace de l'absence. C'est la trace impossible. Révolution anticognitive, c'est vous n'en saurez rien. Burden avait déjà expérimenté cette voie en se cachant à l'intérieur de la galerie pendant une exposition. Circuler, il n'y a rien à voir. Mais là, c'est la dématérialisation radicale, ultime. Je disparais. Comme si la performance, peut-être, n'avait tendu que vers cela, finalement. Simplement out, hors champ de l'art, table rase, dématérialisation accomplie, s'évanouir. Ou bien revenir, mais alors en s'étant débarrassé du corps. Et du geste. The end of performance. Dans ce cas, retour à la case départ. Les Suisses, Fischli et Weiss, mettent le feu aux poudres. Der Lauf der Dinge, le cours des choses, 1987. On. 50 minutes pour vous dire que l'art, c'est de la dynamite. Une suite d'événements catastrophes se déclenchant mutuellement comme des dominos qui tombent. Retour de l'objet, de la sculpture, mais version body art sans body, marionnette. La renaissance du happening, option machine célibataire et désirante. Toute l'histoire de la performance rejouée par de la quincaillerie et de la mécanique. Fluxus, tendance le roi Merlin. La machine est repartie et l'histoire continue, sans nous, toute seule, générique.